au menu de notre club cet après-midi, une avocate qui plaide la cause des personnes autistes, un médecin urgentiste à la rencontre des médecines d'ailleurs et un plongeur sous-marin au milieu des mérous et des requins. Je vous présente mes invités dans un instant. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, des bonobos qui préféreraient les congénères bad boy aux gentils.
Oui, et c'est surprenant car notre plus proche cousin dans le règne animal était plutôt réputé jusque-là pour être pacifique, coopératif. On décrypte ce comportement dans un instant avec la primatologue Shelly Massy.
Et c'est Céline Hila qui est aux commandes de notre club, préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagnier avec Thomas Lehété.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et je salue les invités du club, l'avocate Sophie Janois, le plongeur et biologiste Laurent Balesta et le médecin urgentiste Bernard Fontani. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et
bonjour.
Bienvenue. Sophie Janois, en tant qu'avocate, vous avez donc choisi de défendre la cause des personnes autistes, en particulier celle des enfants. À quel moment une avocate intervient justement dans le parcours et dans le handicap de ces personnes?
Alors, vraiment tout le long de la vie, en fait. C'est... Ça dépend des difficultés que vont rencontrer les familles, mais on va dire que de la problématique de trouver un diagnostic, puis de la mise en place d'une prise en charge, puis de la scolarisation, ensuite de la mise en place éventuelle d'une tutelle ou de défaut de place dans les établissements. En fait, tout ça, c'est tout le long de la vie et à toutes ces étapes, je suis susceptible d'intervenir.
Et c'est ce que vous décrivez dans cet ouvrage, La cause des autistes, qui va sortir mercredi prochain aux éditions Payot. Bernard Fontani, vous êtes médecin urgentiste, vous incarnez également cette série Médecine d'ailleurs, dont la troisième saison a commencé sur Arte. C'est diffusé tous les jours en ce moment à 16h. Vous êtes donc reparti pour un tour du monde à la rencontre de vos confrères partout sur la planète, dont les pratiques représentent souvent un véritable défi. C'est ça d'ailleurs le sens de la série.
C'était le thème de cette troisième saison. C'était plutôt des médecines un peu moins traditionnelles que les saisons précédentes.
Ouais.
Mais on avait envie d'explorer les confins de la médecine un peu dans les endroits compliqués d'accès, difficiles, des pratiques un peu hors normes.
Voilà, du Groenland au Kenya en passant par le Vercors.
Voilà, le Vercors, Chamonix.
On va en parler avec vous dans quelques minutes. Et puis Laurent Balesta, vendredi prochain, ouvrira le Salon international de la plongée sous-marine à la porte de Versailles. 20e anniversaire d'ailleurs pour ce salon. Et vous serez présent, vous, Laurent, pour une exposition et un livre consacré à votre expédition Gombessa 4 qui s'est concentré autour de l'un des rassemblements animaliers du monde sous-marin les plus exceptionnels au monde. Hein.
En tout cas, oui, dans ce petit lieu qui est cette passe de l'atoll de Fakarava, on a découvert il y a 4 ans, alors qu'on y allait pour la rumeur d'un rassemblement de poissons, de mérous qui venaient se reproduire, on a découvert qu'il y en a qui le savaient avant nous, c'était des requins,
ouais.
Et qu'ils étaient plus de 700, ce qui en fait la plus grande densité au monde pour ces requins gris.
Et vous vous êtes donc retrouvé au milieu de ce petit monde.
Et on y est allé pendant 4 années, tellement c'était passionnant.
Voilà, avec un livre qui témoigne avec des photos extraordinaires de cette rencontre et un record de plongée au passage. On va en discuter avec vous et on se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent.
Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près.
Et à la une de la science, des bonobos, pas très sensibles, paraît-il, en tous les cas selon cette étude à la bienveillance entre un bon samaritain et un goujat, la préférence du bonobo ira peut-être souvent au second. Un résultat qui a étonné les chercheurs de l'université américaine Duke. Ils ont mené une série d'expériences avec des bonobos adultes du sanctuaire Lolaya en République démocratique du Congo. Et au final, avoir des alliés dominants serait une stratégie plus payante pour ces primates. Cette étude est parue dans la revue Current Biology. On en parle, Agnès, avec notre invité.
Shelly Massy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes primatologue, vous travaillez au laboratoire d'éco-anthropologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, les auteurs de cette étude se disent surpris par ce comportement des bonobos qui préfèrent s'allier à des rustres. Vous, ça vous étonne aussi?
Oui, c'est sûr que ça étonne parce que les bonobos sont nos cousins les plus proches vivants et sont aussi les plus, entre les chimpanzés, les grands singes, sont les plus altruistes, on peut dire. Ils partagent plus la nourriture avec les autres, même avec des individus qui sont étrangers. Ils coopèrent aussi un peu plus que les chimpanzés avec les autres individus. Donc, les auteurs ont essayé de tester l'hypothèse qu'ils pouvaient préférer, ils pouvaient avoir une préférence comme l'homme, des individus qui sont altruistes, prosociales.
Et comment ils ont fait pour tester ça? Alors justement, dans cette étude, on voit qu'ils n'ont pas forcément un comportement très altruiste. Hein. Comment ils s'y sont pris pour le démontrer?
Les résultats des différentes expériences semblent montrer qu'ils préfèrent des individus qui, en fait, sont plutôt en compétition. Donc, les individus qui sont antisociales, qui essayent de empêcher quelques actions des autres. Par exemple, ils ont testé plusieurs expériences. La première expérience est très, on peut dire, artificielle, je trouve, parce qu'ils ont, posé un écran en face de, un iPad en face de Bonobo avec un film avec deux formes. Et il y avait une forme qui voulait, vous imaginez, un rond avec deux yeux qui veut monter sur une colline.
Une sorte de Pac-Man, hein?
Oui, une sorte de Pac-Man. Et après, il y a un triangle qui arrive qui l'aide à monter. Une autre vidéo était un carré qui essayait de l'empêcher le rond de monter sous la colline.
De lui mettre des bâtons dans les roues.
Exactement. Et donc, après, les bonobos ont dû choisir entre les deux figures, mais qui étaient présentées sous forme de papier. Donc, aussi, il y a cette transposition dans l'écran sous forme de papier. Et ils ont choisi plus l'individu qui n'aidait pas l'autre. Donc l'individu qui montrait
le bonobo, le vrai bonobo, montrait l'individu dans ses écrans qui n'était pas le plus sympathique, on pourrait dire les choses comme ça.
Il ne le montrait pas dans l'écran, mais il pointait sur un papier qui représentait l'individu méchant, on peut dire, l'individu qui aidait l'autre. Et ils ont trouvé que les adultes bonobos, au contraire des enfants humains de 3 mois, qui normalement, ils vont choisir même déjà à 3 mois, l'individu qui aide l'autre à monter. Et après, dans une deuxième expérience, ils ont essayé de faire une expérience un peu plus dans des conditions naturelles. Donc, il y avait des acteurs humains qui jouaient avec un peluche qui tombait. Et il y avait un humain qui essayait de l'aider et à reprendre le peluche et l'autre qui enlevait le peluche de la main de l'expérimentateur.
Donc, il préfère le voleur à celui qui ramasse la peluche pour lui rendre, c'est
exactement.
Ça
Exactement. Encore Même une fois. Même dans cette condition, il y a ça. Ouais. Mais on peut dire que peut-être, si je ne suis pas sûre qu'en face d'un bonobo, donc un con spécifique qui... l'aide, par exemple, à faire quelque chose ou ne l'aide pas, je ne suis pas sûr que le choix sera le même.
Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faut être très prudent par rapport à ce type d'études? Parce que là, on est en train de critiquer la méthode aussi, fondamentalement.
Oui, c'est sûr que normalement, c'est difficile d'étudier ce type de thématiques, de questions au milieu naturel, conditions très naturelles.
Parce qu'il faudrait les répéter, et ça, c'est très compliqué, évidemment.
Exactement, il faut le répéter et avoir un échantillon statistiquement valide. Ouais. Donc, il faut faire des expériences dans des milieux plus fermés, mais il faut faire attention d'avoir des conditions un peu plus naturelles pour que le répertoire du comportement de l'animal est vraiment expressé de façon naturelle et pas artificielle. Parce que même je travaille avec les pygmées Haka, leur façon de voir l'environnement, qui est tridimensionnel d'ailleurs et pas bidimensionnel comme on voit dans l'écran, est différent de notre
perception
qui est vraiment formée par notre culture occidentale.
C'est ça, au sein même des êtres humains.
Ils sont des êtres humains qui vivent dans des conditions totalement différentes des chasseurs-cueilleurs. Donc on ne peut pas penser qu'il peut appliquer et les mêmes règles et il peut avoir la même vision des choses.
Mais quel serait l'intérêt des bonobos à choisir plutôt un grossier personnage qu'un sujet bienveillant?
Oui, donc en effet, cette étude montre aussi que les bonobos ont une préférence vers les individus qui sont dominants. Et normalement, la dominance vers un autre individu est associée dans une façon aussi à la capacité de voler, d'être dominant, voler des choses à les autres. Donc, les auteurs expliquent le résultat comme c'est plus préférable être associé à un individu qui est fort, qui a du pouvoir, plutôt qu'à un individu faible. Donc, j'ai une préférence pour l'individu qui est plus fort.
Et ça paye plus.
Et donc, je pense que ça, en réalité, on le retrouve aussi chez l'homme. Si on pense à la politique, aux politiciens, c'est toujours mieux d'être associé à l'homme, à la personne qui est plus forte, qui a plus de pouvoir, plutôt qu'à la plus faible. Donc, je pense que les bonobos ne sont pas très différents au fond de l'homme.
Ouais. Merci beaucoup, Shelly Massy, en tout cas, pour cet éclairage, parce qu'on a besoin. On voit des grands titres comme ça, on se dit, les bonobos, pourquoi ils préfèrent les individus moins agréables et plus méchants que ceux qui pourraient les aider, faut être très prudent par rapport à ce qu'on peut lire. Et c'était aussi l'idée de vous inviter aujourd'hui. Vous êtes primatologue, vous travaillez au laboratoire d'éco-anthropologie du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et on vous réinvitera pour parler aussi d'études que vous menez sur tout un tas de primates pour en savoir plus justement sur leur capacité à comprendre ce qui se passe au sein même de leurs propres espèces. Merci beaucoup d'être passé cet après-midi. Et Agnès, à très bientôt.
Merci. À bientôt.
Merci. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une bombe cyclonique. Le terme peut faire peur. On l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours à propos de la tempête qui frappe le sud-est des États-Unis. On parle aussi de tempête explosive ou de bombe météo. Alors, est-ce une formule racoleuse? Peut-être pas. Elle n'en demeure pas moins d'ailleurs vraiment scientifique. Son vrai nom, bombogénèse explosive, est utilisé depuis les années 80. Ce terme désigne une dépression en saison froide qui provoque vagues de froid, chutes de neige et vents forts, mais qui surtout répond à des critères précis. Il faut que la pression chute de plus de 24 millibars en moins de 24 heures. Or, jeudi et aujourd'hui, la pression a baissé de 43 millibars, soit presque le double du critère minimal. Le sud-est des États-Unis est donc bien en présence d'une bombe cyclonique. Plus au sud, du côté de la Guyane, on ne parle pas de bombe, mais de saison des poussières, en référence aux poussières du Sahara qui balaient le territoire. L'alerte à la pollution déclenchée hier vient d'être relevée d'un cran aujourd'hui. L'Observatoire régional de l'air prévoit un indice maximal de 10 sur une échelle de 1 à 10. Ces brumes du Sahara se déplacent de l'Afrique vers l'ouest de l'Atlantique par un courant aérien baptisé couche d'air saharien. La qualité de l'air est médiocre depuis le 26 décembre et ces poussières pourraient affecter les voies respiratoires des habitants. Pour l'instant, leurs effets sur la population ne sont pas étudié. Et puis certains vous diront qu'elle est très simple à réaliser et pourtant elle est une énigme pour les chercheurs. La mayonnaise, son contenu épais et visqueux intrigue toujours. Pourquoi ce mélange d'huile et de jaune d'œuf augmente-t-il autant la viscosité de façon aussi spectaculaire qu'imprévisible? Eh bien, un professeur de physique chimie vient d'améliorer une équation de 1929, l'équation de Jones-Dole, pour affiner les conditions de réaction de la mayonnaise, le niveau de concentration critique à partir de laquelle elle se produit en fonction du mouvement des amadions. Ces résultats décrits comme l'effet mayonnaise sont publiés dans le Journal of Physical Chemistry Letters, mais rassurez-vous, ils ne vous seront pas utiles pour en faire monter une à la maison. Allez, le club dans un instant.
Tu ne crois qu'en ta gueule, aux formes du linceul. La poussière et le vent, je ne resterai pas seul à regarder les fleurs tout au long du printemps. Non, 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 non. Si je demeure à ta merci, il n'y a pas long. Souci, je tombe. Quand tu simules tes sans merci, d'ailleurs je ne te dis pas merci. La honte. Tu joues à la marée, mais n'attends pas le ciel. Non, moi je n'ai plus 20 ans. C'est thank you.
Agatha, merci. C'était la voix de Fishback à l'instant.
La tête au carré, le club.
Voilà au menu du club aujourd'hui, la cause des personnes autistes, les médecines d'ailleurs, des mérous et des requins. Vos messages pour nous rejoindre et dialoguer avec nos invités, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Sophie Janois, on va commencer avec vous pour ouvrir ce club. Vous êtes avocate spécialisée dans la défense des personnes autistes et donc vous publiez chez Payot cet ouvrage, La cause des autistes, le combat et les conseils d'une avocate. C'est un livre qui va sortir donc mercredi hein, en librairie. Merci de venir nous en parler avant son arrivée justement chez les libraires. Comment est-ce que vous êtes d'abord spécialisé dans la défense des autistes et parents autistes, parce que vous avez commencé par la littérature hein, au départ.
Oui, j'ai fait des études de lettres il y a fort longtemps, en effet, des études de lettres supérieures. Ensuite, j'ai arrêté longtemps pour élever mes enfants, faire de la photographie, voyager. Et puis, par ennui, j'ai repris des études de droit, on va dire.
Ouais.
Et ensuite, j'ai été, à travers un stage, confrontée à l'injustice que vivaient ces familles. Et j'étais vraiment très proche de devenir avocat, si bien que quand je suis devenue, j'ai rapidement communiqué sur les possibilités qu'il y avait pour les familles de se défendre. Et je me suis engagée dans ce combat à leur côté, en fait.
Ouais, donc les droits de la santé.
Au départ, voilà.
Ça, c'est vraiment une spécialité au sein du droit.
Alors, le terme spécialisation est impropre pour ma part, puisqu'il faudrait que je passe 2-3 examens supplémentaires. Et à vrai dire, j'ai absolument pas le temps de le faire. Non, ouais. Moi, je suis titulaire d'un DESS en droit de la santé. Donc, j'ai terminé mes études complètement en droit de la santé. Mmh. Et aujourd'hui, en effet, ce n'est pas une spécialité, mais on va dire que l'essentiel de ma clientèle est constitué de parents d'enfants autistes, voire d'autistes. Ouais.
Alors, vous écrivez en introduction de votre livre, je vais vous faire plonger dans l'eau noire d'un univers fait de trésors et de cruauté, celui d'un combat légitime de parents pour leurs enfants. C'est un monde où l'injustice est très présent, justement, l'autisme.
Oui, ça a été pour moi une découverte relativement terrible, mais pour laquelle j'ai relevé mes manches. La situation aujourd'hui des personnes autistes est absolument dramatique au regard de leurs droits.
Et en France en particulier ?
En France. Ouais. Je parle uniquement de la France. Ouais. Je ne défends que des Français. J'ai été tout d'abord totalement atterrée, en fait, de m'apercevoir tous ces droits bafoués, tous ces droits fondamentaux et cette lutte permanente que devaient mener les familles pour aider leurs enfants. Alors qu'en réalité, cette lutte-là devrait vraiment être liée au handicap, mais certainement pas à un imbroglio administratif pour obtenir des allocations, pour ne pas être accusé d'être à l'origine des troubles, ou pour obtenir un diagnostic.
Avec une errance hein, à ce niveau-là, qui est absolument hallucinante quand même.
Oui, alors ça, on appelle ça le nomadisme médical, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que on reproche aux familles, devant des juges des enfants, leur nomadisme médical, alors même qu'aujourd'hui, il est très très difficile d'obtenir un diagnostic d'autisme. Mmh. Il existe des centres spécialisés qu'on appelle les centres ressources autisme, il y en existe un par région. Néanmoins, ces centres sont totalement engorgés, parce qu'on va parler un peu chiffres aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on estime qu'une naissance sur 100 est concernée par l'autisme.
Une naissance sur 100.
Une naissance sur 100.
C'est énorme.
C'est absolument énorme. Alors tout ça, à travers le panel d'autisme, à savoir qu'il n'existe pas un autisme, mais un nombre considérable d'autismes, entre l'autisme sévère jusqu'à l'autisme Asperger, qui a des facultés, des compétences intellectuelles hors normes. À travers tous ces autismes-là, évidemment, on essaie d'offrir de quoi aider ces familles, ils n'ont pas les mêmes besoins.
On parle de maladie d'ailleurs ou de handicap, qu'il faut choisir comme terme ? Parce que là aussi c'est très discuté.
Oui,
hein,
c'est ce que j'aborde dans mon livre, c'est à savoir que c'est un sujet glissant. Aujourd'hui, on s'est reconnu comme un handicap. Juridiquement, l'autisme est un handicap. Certains prônent l'idée que ce devrait être considéré comme une maladie parce que ça boosterait la recherche, ça permettrait d'obtenir le remboursement des frais de prise en charge. Et pour d'autres, c'est une insulte de dire qu'un autiste est malade. Et au contraire, selon un principe de neurodiversité, on devrait accepter les gens tels qu'ils sont. Pour le coup, je penche, c'est vrai, un peu moins vers cette théorie, puisque pour défendre les personnes, j'ai surtout besoin qu'on ne considère pas que tout est lié à la normalité, mais qu'au contraire, ces personnes ont besoin d'être protégées plus efficacement que les autres et qu'elles sont particulièrement vulnérables.
650 000 personnes en France, c'est ça ?
650 000, oui. Alors le chiffre encore, il est basé sur des données qui proviennent de l'IGAS ou autre, mais c'est très difficile aujourd'hui de savoir combien de personnes autistes. D'une part, parce que beaucoup ne sont pas diagnostiquées.
Oui.
Les autres ont du mal à obtenir des diagnostics. Donc on se base sur des chiffres aussi de pays, on va dire, au niveau de développement similaire au nôtre, pour obtenir ce chiffre-là. Mais c'est le chiffre officiel aujourd'hui.
Alors, il y a beaucoup d'exemples qui sont cités, évidemment, avec des personnes que vous avez rencontrées à l'occasion de leur défense. Des exemples qui sont absolument sidérants, sur des familles, justement, qui ont toutes les difficultés à pouvoir s'occuper de leurs proches autistes, parce qu'on leur met des bâtons dans les roues en permanence, en réalité, même quand les choses ont plutôt pas mal et qu'on arrive à avancer sur une ligne de crête.
Oui, alors j'ai effectivement choisi des exemples et des cas à travers les personnes que j'ai pu défendre et en racontant simplement leur situation. Néanmoins, ce sont certes des exemples, mais qui sont pour moi extrêmement emblématiques des combats que je mène régulièrement devant les tribunaux. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pas pris des cas vraiment à part. J'ai pris des cas qui étaient très représentatifs de tous les cas que je défends. Mmh. Je voudrais pas qu'on considère que c'est exceptionnel, mais qu'au contraire.
Il y a cette maman qui consacre toute sa vie à son enfant autiste, qui lâche son travail et qui un jour pète les plombs littéralement face à l'inertie autour d'elle. Enfin, c'est insupportable. Et elle prend une batte de baseball.
C'est ça.
Pour rentrer dans le cabinet du psychiatre.
Oui, c'est ça. En fait, c'est la deuxième maman que j'ai défendue et qui doit passer en correctionnelle, à savoir qu'elle n'arrive pas à obtenir de diagnostic, elle part en Belgique, essaie de trouver une prise en charge adaptée pour son fils. Elle finit par obtenir ce fameux diagnostic et puis elle s'aperçoit qu'en fait, elle a perdu 2 ans et demi de la vie de son fils qui aurait pu être pris en charge extrêmement précocement si on avait diagnostiqué son enfant. Et elle demande le dossier médical parce qu'elle espère attaquer le CMP qui était en cause à l'époque et qui refusait de faire un diagnostic. Et là, elle récupère le dossier médical et elle s'aperçoit qu'il y a écrit le mot autisme dedans, c'est-à-dire qu'il se protège alors qu'il ne lui en avait jamais parlé. Donc elle estime qu'ils ont falsifié son dossier et elle décide d'aller leur rendre visite avec sa batte de baseball. Mais
au regard du droit, évidemment,
Au regard du droit,
ça n'est pas reconnu.
On ne
soutient pas quelqu'un qui prend une batte de baseball.
On n'a pas le droit d'aller frapper son pédopsychiatre et de détruire son bureau avec une balle de baseball, même si.
On comprend la démarche.
On comprend la démarche, même si je pense qu'il y a énormément de mamans aujourd'hui qui aimeraient y aller à la batte de baseball. Oui.
Bernard Fontanille.
C'est difficile d'entendre ces mots-là quand on est médecin. Et moi, j'ai pas une grande expérience de l'autisme aux urgences, mais quelques fois, on a des autistes à soigner. Et c'est pas toujours évident, parce que c'est des malades un peu à part, et ça prend du temps. Souvent, du temps, on en a moins qu'à fournir. Ouais. Mais c'est dur d'entendre ces mots et de se dire qu'en 2017, on a encore ce genre de problème quand on est parent d'un enfant qui est pas tout à fait comme les autres. Difficile.
Alors, il y a un problème de formation au niveau des médecins. C'est-à-dire que là où on peut tous être révoltés, c'est qu'on doit partir aujourd'hui du principe qu'on sait faire avec les enfants autistes. Et certainement pas, comme on l'a fait pendant des années, considérer qu'on ne peut rien faire pour eux. Aujourd'hui, il existe des thérapies qui sont reconnues par la Haute Autorité de Santé et qui font l'objet de recommandations depuis 2012. On a déjà 50 ans de retard et aujourd'hui, je ne comprends pas comment il est possible qu'en France, on ne propose pas ces thérapies, on les appelle les interventions cognitivo-comportementales ou développementales, c'est des interventions de type comportementaliste. Donc, on met au banc maintenant, et c'est terminé, de la psychanalyse, on arrête d'attendre l'émergence du désir des enfants, on agit auprès d'eux de manière efficace.
Vous tapez d'ailleurs sur la psychanalyse, on vous sent très très en colère et très énervé.
Je suis très énervé, et ce d'autant qu'ils sont aussi experts auprès des tribunaux, et que c'est absolument catastrophique, les supputations stupides et aberrantes qu'on peut entendre. On peut même se dire aujourd'hui que si on a les cheveux roux, c'est probablement qu'on va pas bien, quoi. Enfin, on en est là.
Pour rejoindre ce que disait Bernard Fontanille, justement, vous montrez aussi un exemple d'enfant autiste qui est obligé de partir de son établissement scolaire, qui est même viré de son établissement scolaire, parce qu'on est incapable de prendre en charge son handicap, justement, et de le comprendre.
Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement les enfants sont pas suffisamment scolarisés, mais quand ils le sont, on ne met pas en place les aménagements nécessaires. On leur propose des auxiliaires de vie scolaire qui ne sont pas formés, donc qui peuvent être complètement dépassés, les enseignants dépassés, on les comprend, mais là encore, c'est un manque de formation. Et ensuite, plutôt que de mettre tout en place, plutôt que d'écouter les familles, parce que les familles savent quoi faire, eh bien, on va fermer la porte petit à petit, réduire le temps de scolarisation de l'enfant à son plus simple appareil. Savoir, là, hier, j'avais une maman au téléphone, on a baissé la scolarisation de son fils à 3 heures. 3 heures par semaine. 3 heures par semaine. Ça s'appelle pas une scolarisation.
Il y a cet exemple de Marie qui a perdu la tutelle de sa sœur. Oui. Alors là, voilà l'exemple d'une famille qui essaye de mettre des choses en place. Hein. Mmh. On voit des progrès aussi qui sont réels. Et puis tout d'un coup, voilà, c'est terminé.
Pour des raisons strictement financières, en fait, mettre en place une prise en charge en libéral quand on est tuteur. Là, on parle d'adulte. Hein, ouais. ça signifie qu'on parle pas d'un enfant autiste, mais d'un adulte autiste. À partir de ce moment-là, on va passer sur un budget du conseil départemental. Qui donc on finance la PCH, prestation de compensation du handicap. Et donc la prise en charge en libéral est chère. Et la MDPH, en l'occurrence, qui est aussi un service du département, faut pas oublier que la MDPH est sous la tutelle du département.
Absolument.
A saisi le juge des tutelles en estimant que cette sœur dépensait de manière inconsidérée l'argent qui lui était alloué et on stoppait. À partir du moment où on n'a plus la tutelle, on perd tous les droits sur son majeur protégé. Et donc, c'est un tuteur institutionnel qui connaît rien au handicap. C'est un gestionnaire de patrimoine, grand bien lui fasse. Mais néanmoins, il ne sait pas comment orienter une personne autiste. Donc, on a orienté cette jeune femme vers un établissement médico-social où finalement, ça s'appelle de l'enfermement. Hein, ça s'appelle l'institutionnalisation du handicap, qui est encore une fois décriée par les États-Unis. Mais on fait ça en France régulièrement. Et cette jeune femme est décédée... après avoir régressé, c'est absolument dramatique.
Sophie Janois, vous avez attaqué plusieurs fois l'État et vous avez plusieurs fois gagné aussi d'ailleurs. Hein.
Oui, ce sont des dossiers qu'on gagne. Bon, évidemment, on trie nos dossiers, donc c'est pas parce que les personnes nous appellent qu'on va systématiquement prendre le dossier. On les prend quand on est absolument ou quasi certain de les gagner. Aujourd'hui, une famille qui a une orientation de la MDPH, donc un droit vers un établissement médico-social et qui est face à un manque de place et donc se retrouve avec son enfant ou son adulte à domicile, est en droit de demander réparation à l'État. Alors évidemment, ça c'est un peu étrange de dire on attaque l'État pour défaut de place dans les établissements et d'un autre côté de dire on est contre l'institutionnalisation du handicap et on ne veut pas d'établissement. Il existe des établissements, quelques-uns qui sont parfaitement adaptés, mais ça veut dire que les familles sont partie prenante de la prise en charge. Ce sont des établissements ouverts et qui n'ont certainement pas vocation à enfermer ces personnes à vie. On doit en sortir. Et ça, c'est un bon établissement.
La cause des autistes, hein, c'est le combat, les conseils, je dirais la colère aussi d'une avocate. On sent votre énergie et votre pugnacité pour toutes ces familles qui font appel à vous.
Elle le mérite.
Et cet ouvrage est publié chez Payot. Il va sortir mercredi, je le rappelle, dans les librairies. Merci beaucoup d'être venue nous en parler, Sophie Janois. Mais vous restez avec nous. On va dans un instant justement découvrir les médecines d'ailleurs. There I lay beside the Great Dane, astray in the south, obsessed by your mouth. And you been away for the fall. I've barely seen you at all. Impressions over you, blue like bikini at all. Shallow pain, but it's not deep down. Cigarettes while you're asleep now. I've taken less care, I feel weak now. You said you was flying to Milan in about a week now. I don't mind to reignite the fire. Besides from that weed we light. If you try to ask me why, the fact that I've lied and you're tired of that. I don't blame, I only claim to be in a state that closure was the way. She exposed my name, and now I'm supposed to tell you all them times and them places. But I'm still developing, enveloped in the elephant of the room I'm already in. I don't give up, it's irrelevant. Wait for fall. Barely seen you at all. You've come and seen me at school and you realize that I'm no cool. Shallow pain, but it's not deep down. Cigarettes while you're asleep now. When I've taken less care, I feel weak now. You said you was flying to in about a yo. But I don't mind to reignite. Besides from that we light. If you try to ask me why, the fact that I've lied and you're tired of that. I don't blame, I'm only claiming. In a state that closure was the way. She exposed my name and shame. Cosmo Pike avec Great Dane à l'instant.
Le club de la tête au carré avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Je m'appelle Bernard Fontani, je suis médecin urgentiste. Cette année, j'ai décidé de parcourir le monde à la rencontre de ceux qui prennent soin des autres.
Et il est avec nous, Bernard Fontani, ce médecin baroudeur de la série Médecine d'ailleurs, que vous incarnez donc pour Arte tous les jours en ce moment, hein, troisième saison, à 16h, donc du lundi au vendredi, avec un nouveau tour du monde jusqu'au 12 janvier. C'est vraiment extra quand même, hein, cette idée d'aller courir sur tous les continents pour voir comment se pratique la médecine. Vous qui êtes médecin, c'était quand même la super bonne idée à proposer à une chaîne de télé, non?
Oui, c'était la bonne idée, je l'ai eu un peu par hasard et je pensais pas que ça me mènerait aussi loin, mais ouais. Ça fait 5 ans que ça dure. Et
ouais. Vous n'aviez jamais... été confronté à une caméra avant ça?
Non, pas du tout, ouais. Absolument pas. Et puis c'était bon, j'étais quand même sur des tournages assez fréquemment comme médecin de plateau, médecin de l'équipe, et notamment de rendez-vous interinconnus, ce qui m'a quand même mis les pieds assez solidement dans ce milieu de la médecine un peu exploratrice.
Ouais. Et c'est comme ça que vous avez commencé.
Et c'est comme ça que ça a commencé. L'idée a germé sur un tournage de rendez-vous interinconnus. J'en ai parlé avec Frédéric Lopez à l'époque. On a eu un petit projet ensemble qui a avorté. Ouais. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à présenter ce projet chez Arte, à une époque où Arte voulait des films de ce type-là. Ouais.
Vous auriez pu vous croiser avec Laurent Balestra, parce qu'il y a une sorte de club des baroudeurs, là, quand même. Des baroudeurs de la télé,
mais
Laurent.
Il n'est pas dit qu'on ne se croise pas un jour, d'ailleurs.
Ouais, c'est possible. Hein.
C'est pas impossible.
Parce que ce métier d'aventurier, vous le faites toujours aussi avec une caméra ou un appareil photo, Laurent Balestra.
Pas toujours, mais forcément, c'est ces aventures-là dont on parle le plus, parce qu'on les voit le plus. Mais en tout cas, ça se passe aussi avec Arte, comme quoi.
Ouais. Exactement. On a la chance d'avoir une chaîne en France qui commande ce genre de films, qui donne les moyens de les faire.
Et c'est puis qui crée des fidélités. Ça fait quatre fois consécutives.
Ouais. Bernard Fontani, dans la vraie vie, vous faites quoi alors? Vous êtes médecin urgentiste?
Je suis médecin urgentiste. J'habite à Chamonix, en Haute-Savoie. Ouais. Et je fais du secours en montagne, de la médecine d'urgence, du SMUR.
Donc vous connaissez les conditions très rocambolesques, parfois très difficiles, pas rocambolesques, difficiles.
Rocambolesques, pas forcément, mais difficiles, oui, c'est des conditions de travail très atypiques, un peu à part. Alors si on parle de la saison 3 plus précisément, on a un peu quitté les médecines traditionnelles des saisons précédentes et on s'est un peu attaché à montrer les confins de la médecine, on pourrait dire de la médecine occidentale, et de la médecine du secours aussi, pas seulement, mais beaucoup. On s'est intéressé à la médecine de l'altitude, à la médecine des profondeurs avec la spéléologie. La question, c'était, est-ce qu'on peut soigner des gens sous terre? Est-ce qu'on peut soigner des gens au sommet du Mont Blanc? Est-ce qu'on peut soigner des gens dans l'eau, en canyonine, par exemple? Et la réponse, c'est oui, on peut faire des choses, pas tout, mais on peut faire beaucoup de choses.
Ouais, et c'est donc ainsi que vous êtes parti pour cette nouvelle saison au Groenland, au Kenya, en Angola, en Russie, en Inde, en Papouasie, mais aussi dans le Vercors, en Espagne ou en Guyane. Comment vous trouvez toutes ces histoires, finalement?
C'est un gros réseau de
médecins du monde.
Il y a un réseau de médecins, effectivement. Surtout pour cette saison, j'ai parlé de ce que je fais depuis des années, donc le secours en montagne à Chamonix. J'avais très envie de raconter ça. Le médecin qui fait de la spéléo dans le Vercors est une de mes mères, on va dire, pour la médecine du secours. Ouais. Et puis après, il y a un gros travail de recherche. Un gros travail de recherche par une équipe, une enquêtrice, des stagiaires qui nous aident. Et puis voilà, on recherche, on va sur Internet, on va dans les livres, et on trouve.
Alors racontez-nous justement cette médecine des profondeurs. Alors ça, c'est l'objet du doc qui sera diffusé mardi prochain à 16h, hein, donc pour le Vercors. Là, on suit une équipe de médecins spéléologues lors d'un exercice tout à fait particulier, donc grandeur nature. Et là, on se rend compte des conditions parfois qui peuvent être celles de ces médecins qui sont obligés d'aller soigner très très profondément dans la terre, hein, dans ses entrailles.
France Recourt, qui est médecin, qui est anesthésiste à Grenoble, est une de nos mères à tous, c'est-à-dire qu'elle nous a appris le secours en montagne depuis des années. Ouais. Tous ceux qui font du secours en montagne en France connaissent France Recours. Et c'est une des plus anciennes médecins qui s'est aventurée sous terre pour soigner des gens qui font de la spéléo. Il était quasiment impossible de faire un film réel sur le secours en spéléo parce qu'il y a très peu d'accidents. Ouais. Et que c'est des accidents qui sont très compliqués, qui se passent parfois à moins 1000 mètres sous terre, qui peuvent durer plusieurs jours, voire une semaine, voire plus. Donc chaque année, les équipes de spéléo secours se rassemblent et font un exercice de grande nature très très réaliste. Et on a eu la chance de pouvoir participer à cet exercice de secours et à s'immerger avec eux dans une grotte qui est à côté de, donc dans le massif du Vercors, à côté de la grotte de Choranche. Deux très beaux gouffres qui sont assez faciles d'accès, mais très impressionnants pour des néophytes comme moi.
Et on va écouter justement un extrait qui concerne cet exercice donc dans le Vercors et que les auditeurs de La Tête au Carré pourront voir donc mardi sur Arte.
On est venu pour la grotte de Gournier. Une femme de 30 ans qui a subi la chute d'un bloc, fracture du fémur gauche, fracture ouverte jambe droite. Voilà pour ce qu'on sait maintenant.
Il est midi. Un premier groupe est envoyé dans la grotte pour établir un bilan médical.
C'est bon, top départ, on y va, en avant-marche.
Donc on va s'étaler dans le boyau et on va se passer les kits, ok ?
Rapidement, je mesure la singularité du milieu dans lequel ces médecins doivent exercer. L'obscurité, le silence, l'humidité et la température de 10 degrés rendent les lieux hors du temps, loin du monde.
Je me laisse pendre en France, c'est ça ?
Oh oui, tu peux, là, il n'y a pas de souci.
Il est 18h. Après 6 heures de progression à bonne allure, au cours desquelles notre équipe a enchaîné les boyaux, les gouffres et les puits, nous approchons d'Aurélie, qui joue le rôle de la victime.
Et la douleur, là, entre 0 et 10, tu le mesures combien ?
7-8, là.
7-8, d'accord. Oh là là, ouais, dis donc, là, c'est bien cassé, hein. Mais t'inquiète pas, ça va se réparer, va. Tu fais pas de soucis, on va y arriver. On va te mettre une perfusion, on va t'emmener dans une petite tente qui est chauffée et dans laquelle tu seras bien et dans laquelle on va pouvoir s'occuper encore mieux de toi pour pouvoir te mettre dans un brancard et te sortir de la grotte, ok ?
Ça marche.
Ça va ? D'accord.
Voilà, Bernard Fontani, médecine d'ailleurs dans le Vercors, donc avec cette simulation. C'est quoi, c'est 30 heures d'intervention au total avec une équipe de combien de personnes ?
On était une cinquantaine, je crois. Ouais. Alors parfois,
c'est ce que nécessiterait vraiment un tel accident ?
C'est même parfois beaucoup plus que ça. Et c'est parfois, il faut dynamiter, il faut élargir des passages pour passer le brancard, il faut faire descendre des secouristes en plus, de la nourriture, installer des tentes. C'est très compliqué. Moi, ce que j'aime beaucoup chez France Recours, c'est qu'elle est, c'est quelqu'un de très singulier, de très atypique, qui a porté le secours en spélo en France depuis 35, 40 ans peut-être, qui est maintenant à la retraite, mais qui continue à graviter dans ce milieu. Il y a très peu de médecins qui sont capables en France aujourd'hui et même dans le monde de descendre à moins 1000 mètres et de faire une intervention sur un arrêt cardiaque, une fracture du fémur, etc. Ouais. Ils sont très peu nombreux. Il y a une liste d'astreintes en fait. Ils sont beaucoup dans la région de Grenoble, dans l'Isère.
Ouais.
Et ils sont appelés, chacun à leur tour, ils se débrouillent pour se rendre disponibles. Enfin, c'est une sacrée solidarité, je trouve.
Il y a un épisode de la série aussi au Groenland. Ouais, alors ça, c'est des conditions d'extrême froid. Ça, c'est intéressant.
Ce qui était intéressant, c'était aussi... C'était un peu le lien entre les saisons précédentes et la nouvelle. On est allé suivre une médecin française, Annika Rouedan, qui s'est exilée au Groenland, au fin fond de la côte ouest, là, à Oumanax, un village magnifique au pied d'une immense falaise. Et elle pratique là-bas une médecine qui est à la fois technique, occidentale, et en milieu très 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 isolé.
Ouais.
Et en même temps une médecine qui est très culturelle, pour laquelle il faut comprendre les gens qu'on soigne. Les Groenlandais sont un peuple qui est très uni, qui est très assez uniforme, on va dire, encore. Et les gens qu'on soigne ne sont pas comme les autres. Il faut comprendre que surtout la façon d'exprimer les symptômes est très différente. D'ailleurs, on a essayé de montrer ça dans le film, c'était très difficile parce qu'ils sont très pudiques. Mais ils ont une façon de décrire des symptômes. Ils disent parfois qu'ils ont de l'eau qui ruisselle sous la peau. Enfin, il y a des tas de choses que moi j'avais jamais entendues. Et Annie a passé beaucoup de temps auprès des Groenlandais, a appris la langue, ce qui est une des langues les plus difficiles au monde. Elle ne la maîtrise pas bien, mais elle la parle un petit peu. Et elle a comme ça appris à soigner des gens que d'autres médecins n'arrivent pas à soigner. Même des médecins danois qui parlent la langue, qui parlent le danois, parce que les Groenlandais parlent aussi le danois, n'arrivent pas forcément à bien les soigner. Et Annie s'est tellement immergée chez eux et tellement proche d'eux, les aime tellement qu'elle a réussi à faire des choses magnifiques là-bas.
Mais comment on fait quand on est loin de tout hôpital, justement, dans ces régions parfois très reculées?
On fait avec des avions, des hélicos quand on peut. On fait en traîneau quand on n'a pas le choix. Nous, on en a fait l'expérience et on a passé plusieurs heures dans une petite barquette derrière un traîneau à moins 40. Et puis on fait de la télémédecine aussi et ils ont développé au Groenland un système qui marche très très bien, qui s'appuie sur des assistants de santé ou des auxiliaires de santé, des gens qui sont pas du tout des médecins, ni des infirmiers, ni même des aides-soignants, dont Esther, qu'on voit dans le film, qui est un personnage incroyable, qui est pêcheuse, qui est pêcheuse, je pense qu'on dit ça comme ça, qui pêche et qui le reste du temps s'occupe d'une petite pharmacie et d'un appareil de télémédecine. Alors on peut faire des diagnostics à distance, un infarctus, un électrocardiogramme, c'est très très bien organisé et ça marche.
Laurent Balesta, comment on fait quand on est en plongée pendant plus de 20 heures et qu'on a une blessure comme c'était votre cas aussi à cause des requins, là?
Je craignais la question.
Ouais.
Parce que comment on se soigne? Parce que déjà, sous l'eau, vous parliez de...
On peut se dire entre baroudeurs, vous pouvez vous tutoyer. Hein.
Non, mais c'est vrai que sous la terre, en altitude, tout ça, c'est très compliqué. Je pense que sous l'eau, c'est le terrain, je ne sais pas si on peut dire terrain, ultime. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire sous l'eau sur quelqu'un d'accidenté. Il faut pouvoir le sortir de l'eau, dans la mesure où on peut le sortir de l'eau, parce qu'il y a souvent des paliers de décompression obligatoires. Donc c'est compliqué.
Comment vous avez fait, vous, Laurent Balesta, concrètement, quand vous avez eu cet accident, là, on le voit dans le leader, il y a une photo, vous avez une blessure qui est due à un requin qui ne vous a pas mordu directement, hein, c'était parce qu'il avait dans la bouche un autre poisson.
Ouais.
Et, bah, mais c'est, quand même, il y a une blessure
impressionnant,
profonde.
Mais c'est pas très grave. Hein, c'était quelques points de suture, c'est tout. Mmh. Mais,
donc vous continuez la plongée et puis on verra en remontant à la surface.
Oui, c'est ce qui s'est passé. Ouais. On avait tous dans nos poches prévu. On ne croyait pas à l'idée d'être mordu. Ça, c'est une conviction qui s'est forgée sur plusieurs années. Et puis quand c'est arrivé, mais on avait quand même, malgré cette conviction, on avait quand même tout le monde avait dans sa poche une sorte de gros garrot en néoprène qui pouvait faire à la fois pansement compressif, garrot, un peu tout. Alors donc voilà, quand j'ai eu cette blessure, j'ai sorti ça, j'ai fait c'était autour de la cuisse, donc c'était facile à arrêter. Ouais. Et puis de toute façon, j'étais à 1 km de la sortie de la plongée, donc il fallait de toute façon continuer la plongée pour pouvoir sortir de l'eau, puisque c'était en pleine nuit. Voilà. Mais non, moi c'était anecdotique, c'était plus impressionnant qu'autre chose.
Bernard Fontanille, le Kenyan, un dernier mot sur cet épisode qui a, je crois, déjà été diffusé cette semaine. Là, on voit les Flyers Doctors.
Les Flying Doctors du Kenya. Oui, c'était un... On avait fait un film sur les médecines traditionnelles au Kenya qui était très très beau, et quasiment dans la même région, on est allé faire un secours avec ces médecins volants. C'est une très vieille organisation qui est portée par l'AMREF, qui est une ONG africaine très ancienne. Et pour aller soigner des gens dans des endroits difficiles d'accès, il y a un système d'avions, des petits avions qui transportent des médecins.
Qui arrivent à se poser à peu près partout.
Ils se posent quasiment partout sur un n'importe quel bout de piste qui traîne, en faisant attention aux animaux sauvages qui se promènent. Moi, je croyais que c'était une blague, mais en fait, il faut vraiment faire attention que ce soit pas des lions, des éléphants et des zèbres. Et ils apportent des soins... parfois aux plus démunis, comme c'est le cas dans le film. On a suivi l'histoire d'un petit garçon nouveau-né qui avait une agénésie de l'anus, enfin, qui n'avait pas d'anus, donc qui avait besoin d'une chirurgie très urgente. Et une chaîne de solidarité s'est mise en route très très vite. Ce petit enfant aurait dû mourir, puis par un jeu de hasard et de bienveillance et d'organisation, il a pu être soigné dans un hôpital de Nairobi. Et moi, j'ai été bluffé par le niveau et la compétence des médecins, du médecin que j'ai suivi en particulier, de ses infirmiers, de leur dévouement, etc. Donc, c'est un très bel épisode pour moi.
Voilà. Donc, on va continuer avec vous ces voyages jusqu'au vendredi 12 janvier. Voilà. C'est tous les jours de la semaine à 16h sur Arte. C'est produit par Bonne Pioche et ça s'appelle Médecine d'ailleurs. Bernard Fontanille, vous restez avec nous. On poursuit avec Laurent Balesta dans un instant à l'occasion du salon de la plongée sous-marine. C'est vendredi prochain, là aussi, le 12, et on partira observer avec vous, Laurent Balesta, les mérous et les requins. À tout de suite.
Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe. Des lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile et mes doigts de palper. Palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. À l'oreille de ce lèvre, qu'importe l'amour, importe.
mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie et l'exhibe les trésors satinés dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'eau, de l'eau. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'eau, de l'eau.
Ma petite entreprise, Alain Bachung.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Pour vous aussi, Laurent Balesta, finalement, c'est une petite entreprise, hein, celle de plongeur sous-marin. Parce qu'on peut la décliner de différentes façons. Hein.
Oui, et puis monter une expédition, c'est une entreprise.
Ouais, c'est vrai, ouais, absolument. Ouais. Et on va en parler avec vous à l'occasion de cette expédition Gombessa 4. Alors d'abord, dans le cadre du salon de la plongée sous-marine, donc ça commence vendredi à la Porte de Versailles. C'est d'ailleurs le 20e anniversaire auquel vous allez participer avec finalement une triple actualité, puisque vous allez présenter en exclusivité votre exposition, et puis des conférences parallèlement à cette expo, et le livre qui arrive avec des photos et le carnet de route hein, de votre expé.
Oui, ouais, c'est un beau cadeau que me fait le Salon de la Plongée, de m'offrir cet espace, enfin, autant de liberté de montrer ce travail qui a été accompli sur 4 années de voyage là-bas. Hein. La première fois, c'était 2014. On pensait que ce serait le temps d'une expédition, s'intéresser à un petit mystère qui était ce rassemblement de Mérou.
Et puis en Polynésie
été, en Polynésie française, sur l'atoll de Fakarava. Et puis, ça a été tellement fascinant de découvrir ce lieu, de cette concentration d'animaux, cette concentration de comportements animaliers, qu'on y est retourné chaque année depuis et que je sais déjà que j'y retourne encore cette année. Quoi.
Ouais, parce qu'il y a des choses que vous aimeriez encore parce que prolonger.
C'est fou, c'est un lieu, une passe, on le
Qu'est-ce
sait.
Qu'est-ce qui se passe ouais, là-bas voilà, exactement
c'est un lieu de concentration où il y a un rendez-vous annuel exceptionnel. Des mérous qui sont normalement des poissons solitaires qui tout à coup se rassemblent une fois dans l'année jusqu'à 20 000 mérous sur la surface d'un terrain de foot. Donc c'est une concentration énorme et qui viennent là pour se rassembler et puis se mettre à pondre tous ensemble un seul jour. Voilà, une ponte qui va durer 25 minutes dans une année entière.
Ouais, ah oui, il faut pas le louper. Alors,
si et donc, au départ, c'est ça qui nous a attiré, cette rumeur de cette, puisque ça avait jamais été filmé. Donc, il y avait cette rumeur d'un rassemblement exceptionnel et d'une reproduction qui tenait de l'orgie éphémère une fois dans l'année. Et puis, on a découvert que derrière ces 20 000 mérous, il y avait une horde de 700 requins gris qui est là et qui les massacre chaque nuit. Ouais. Et alors ça nous a encore plus fascinés, d'autant plus qu'on s'y attendait pas. Je dirais même qu'on était un peu dans la sidération au départ et qu'il nous a fallu beaucoup de temps et pas loin de ces 4 années pour se sentir à l'aise avec eux et petit à petit s'approcher de la meute dont on n'osait pas au départ s'approcher. Ouais. On gardait nos distances et du coup on voyait pas bien ce qui se passait à l'intérieur.
Parce que là on a affaire à des requins enragés véritablement.
Enragés, après ça c'est une interprétation, mais en tout cas ils ont cette nuit pour ils ne peuvent chasser que la nuit quand les poissons sont un peu à léthargie. On a compris, ça c'est l'étude de cette année qui a montré que ils ont besoin d'un minimum de lumière lunaire de lumière de la lune pour pouvoir être efficaces dans leur chasse nocturne. Et surtout on a montré que cet animal dont que l'on dépeint depuis toujours comme une espèce de machine absolument efficace où l'individualisme, la loi du plus fort règne, tout ça est un peu balayé. On a vu des animaux qui ont énormément de faiblesses, en fait, qui ne savent pas chasser tout seuls ou quasiment pas.
Vous parlez des requins ou des mérous?
Je parle des requins, c'est ça qui est le plus étonnant. Et on a montré cette année qu'il y avait beaucoup plus de coordination dans ce groupe de requins que de compétition. Et la compétition démarre au moment où... Ouais, voilà, il y a une vraie coordination pour augmenter l'efficacité de la chasse. Et ensuite, évidemment, il y a une concurrence une fois que la proie a été capturée. Et c'est tout ça qu'on a voulu montrer dans le film qui passera sur Arte dans quelques mois. Et puis surtout, à travers des photos où je voulais montrer, ce sont vraiment des instants d'océan. C'est le paradoxe. Il nous a fallu toutes ces années pour capturer des instants qui durent une fraction de seconde. Ouais. C'est des images que je découvre, moi, après la plongée, tellement c'est fulgurant.
Alors, donc, il y a aussi ce livre qui sort parallèlement, que vous allez présenter aussi au Salon de la Plongée. Ça, c'est 700 requins dans la nuit qui est publié.
On les a comptés.
Aux éditions Andromède.
705, exactement.
C'est vrai? C'était le, comment vous faites?
On les comptait avec des protocoles vidéo. On faisait des longs 35 vidéos. Puis ensuite, sur la vidéo, c'est très laborieux. Ouais. Et on recommençait ça tous les jours. Et il y a des jours, il y a eu des années, on en comptait à peine 350, ce qui est quand même déjà énorme. Et puis, il y a eu un comptage record à 705 requins, ce qui en fait la plus grande densité au monde connue.
Sophie Genois, comment vous les trouvez, vous, ces photographies?
Absolument magnifique.
Vous aimeriez plonger au milieu de toutes ces petites bêtes sympathiques?
Alors, j'adore ça.
Vous aimez la plongée?
Ah oui.
C'est vrai?
Pour moi, c'est un environnement très calme, alors qu'on sait qu'il est aussi empreint de violence, comme vous le racontez si bien.
Ouais.
J'aime être sous l'eau. Ouais. Et y passer du temps.
Vous avez plongé avec des requins déjà ou pas?
Non, jamais. Là, en revanche, j'aurais probablement peur, mais à force qu'on me dise que c'est ça ne... qui ne viennent pas attaquer les hommes si on est là juste pour observer.
Ouais.
Moi, je finis par y croire. Sauf à me prouver que je vais me faire manger, là, j'irai pas. Mais sinon, oui, pourquoi pas.
Non, il n'y a pas de risque. Mais en tout cas, tous les plus réticents d'entre nous, au sein même de l'équipe, il y avait des réticences au début. Et puis, il y a des gens qui nous accompagnent, qui ne sont pas forcément plongeurs. Quand ils voient nos visages, nos émotions à la sortie de ces plongées nocturnes que l'on fait toutes les nuits, on a accumulé 3000 heures de plongée quand même sur 4 ans. Tous, à un moment donné, on dit... on ne peut pas venir quand même une fois. Et évidemment, on les a tous pris avec nous. Et même les plus inquiets de nature, pour certains, on dit que c'était la plongée de leur vie. Encore cette année, on a amené des spécialistes des requins avec nous, puisqu'on a voulu pousser la recherche beaucoup plus loin cette année. Quelqu'un qui avait 25 ans de recherche sur les requins, un chercheur américain, qui est sorti de l'eau à la fois fasciné et désespéré, en me disant 25 ans que je crois les connaître.
Ça, c'est affreux. Voilà.
C'est un lieu qui mérite d'être plus connu, qui a un statut de protection, qui est une réserve maniendiosphère de.
Donc la Polynésie, lieu de Polynésie, cette passe dont vous parlez.
Oui, cette passe est classée par l'UNESCO réserve maniendiosphère. La passe est protégée, les requins sont protégés. Pour autant, jusqu'à ce que l'on commence ces investigations nocturnes, on ne savait pas ce qu'ils faisaient la nuit. Alors, d'autant plus qu'on dans la littérature, on dit que les requins, même ceux qui sont regroupés le jour, se dispersent la nuit pour chasser. Sauf à cet endroit-là où il y a une chasse en meute.
Laurent Balestin, on va écouter en avant-première finalement un extrait de ce film qui va sortir donc sur Arte dans quelques mois. On vous voit quasiment lancer le lasso pour attraper le requin.
J'attrape le requin. Je le tourne, je passe le nœud coulant.
Voilà, okay.
Là, je ne suis pas convaincu, moi, d'arriver à fermer le nœud coulant avec une seule main.
C'est un nœud que tu connais, là? Ça marche. Il est bien.
Mais c'est pour ça aussi qu'il faut que tu aies du mou derrière moi, parce que sinon, il est serré sur mon poignet, moi, quoi.
L'idée, c'est lâcher la queue.
Exactement.
Et c'est vous qui tirez.
Parce que là, je sentirai.
Okay. Mine de rien, là, c'est quand même... la partie la plus importante de la mission qui se joue, quoi. Est-ce que ça marche, cette méthode-là, qui n'est pas du tout agressive, ou est-ce que ça ne marche pas,
Mais c'est un essai.
Ouais, c'est un essai, mais ça serait bien qu'il soit conclu. Hein.
Voilà, le doute traverse Laurent Balestin face au requin.
C'est sûr. On avait utilisé une méthode qui est connue, c'est pas nous qui l'avons inventée, qui est la mise en catalepsie des requins.
Il suffit de les retourner comme une crêpe?
Exactement. Le paradoxe, c'est que là où ça marche le mieux, c'est quand ils sont précisément dans une immense excitation, par exemple au moment d'une chasse, quand la boule de requins se forme, que ça grouille dans tous les sens, qu'il y a plus de requins que d'eau. Tellement le volume est occupé, et ben c'est précisément dans ce moment d'excitation que c'est le plus facile de les saisir. Il faut arriver derrière eux, les attraper par le haut de la queue de la nageoire caudale. Encore une fois, tout ça s'est fait sur 4 années. On n'aurait jamais eu cette audace les premières fois devant un spectacle aussi violent. Mais ça marche très très bien. On l'attrape par la queue, il suffit de le retourner, on tord un petit peu la queue, tout le corps du requin suit le mouvement, se retrouve sur le dos, et là
il est dans une espèce de surstimulation sensorielle et il est dans une sorte de transe immobile.
Le but, c'était quoi?
Alors voilà, c'est ça, c'est que la chose était connue, mais c'est la première fois qu'on s'en sert pour faire quelque chose. Mmh. Et l'idée, c'était de trouver la façon la plus douce de capturer ces animaux, et du coup de pouvoir les choisir. C'est pas comme quand on les pêche où là, c'est le hasard. Là, on pouvait choisir mâle, femelle, petit, grand, pour ensuite les monter jusqu'à la surface, très délicatement, comme ça. Et les opérer, leur faire une petite opération chirurgicale pour leur placer dans la cavité abdominale une petite sonde acoustique, une petite puce électronique avec un accéléromètre, avec pas mal d'informations. Et ensuite, la passe elle-même, le lieu de vie des requins, a été balisé avec 25 antennes réceptrices. Et pendant plus d'un an, parce que là, nous, on a fait ça au mois de juillet.
Donc c'est en cours.
Mais c'est en cours, c'est-à-dire que tous les jours, toutes les minutes, les requins sont, leur position relative les uns par rapport aux autres sont enregistrées. Et on va pouvoir, là, on a déjà pas mal de résultats dont on va parler dans le film, mais dans un an, on aura toute une série de résultats sur leur mode de fonctionnement.
Et leur comportement, et leur déplacement. Ouais.
Comment ils coordonnent leurs attaques, comment, est-ce qu'ils ont des heures d'attaque privilégiées, est-ce qu'ils ont des zones de repos privilégiées. Enfin, voilà, ça, c'est assez passionnant parce qu'encore une fois, ben voilà, sous l'eau, on ne peut toujours qu'y aller et revenir. On ne peut pas s'installer à demeure. Même quand on pousse les plongées très longtemps sous l'eau, ça reste des heures et jamais des journées, quoi.
Laurent Balesta, donc, le salon de la plongée, c'est vendredi jusqu'à lundi 15, hein, vendredi prochain, vendredi 12 jusqu'au lundi 15 janvier. Et puis donc, ce livre qui sort, ce livre de photos, et puis votre carnet de plongée également, 700 requins dans la nuit, c'est aux éditions Andromède. On va le trouver en librairie bientôt aussi?
Ouais, au printemps, je pense qu'on le trouvera facilement.
Et puis des conférences autour de l'expédition au salon de la plongée, vendredi, samedi et dimanche. Tout ça est en lien sur la tête au carré. Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui dans ce club. Merci à Mathias Saléon et Julien Michel qui étaient aujourd'hui à la technique. Et puis dans un instant, ce sera Affaires Sensibles avec la fiction du vendredi consacrée à la Corée du Nord qui fait son cinéma. Fabrice Well dans un instant, juste après les infos. Bon week-end à tous, il est 15h.